DW. Magazine Santé.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, les zones de santé de Butembo et Beni dans la province du Nord Kivu connaissent une pénurie de certains vaccins pour enfants. Une situation qui vous l'entendrez a un impact sur la santé des enfants et qui inquiète.
Nous mangons les rotensiles, il prévient contre la diarrhée. L'antipneumo qui contribue à la lutte contre la toux chez les enfants et aussi la méningite, mais également les oreillons.
Mais avant d'aller en RDC, on parle de l'hémophilie. Il s'agit de l'impossibilité pour le sang de coaguler, conséquence des hémorragies sévères en cas de blessure et parfois des saignements, notamment au niveau des articulations. Comment vivre avec une telle maladie? On en parle tout de suite avec Abdoulaye Loum, président de l'Association sénégalaise des hémophiles. Il nous parle de son quotidien avec la maladie, mais aussi de ce qui est fait dans un pays comme le Sénégal pour sensibiliser et soutenir les hémophiles. Vous écoutez Capsule Santé, Carole Assignon au micro. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Abdoulaye Loum.
Oui, bonjour.
Alors pour commencer, peut-être pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours en tant que personne qui souffre d'hémophilie. Qu'est-ce que cela implique au quotidien?
L'hémophilie, en fait, c'est une maladie du sang qui est caractérisée par un temps de coagulation qui dure plus longtemps par rapport à la normale. Donc moi, en tant qu'hémophile, lorsque je me blesse et que je commence à saigner, le saignement peut être interne comme externe. Le saignement ne s'arrête pas de suite. Donc du coup, ce que cela implique, c'est qu'il va falloir faire beaucoup attention par rapport aux activités que nous menons. Parce que au moins le choc qu'on peut avoir un saignement, là c'est compliqué. Et ces saignements-là, la majeure partie du temps, ça peut durer une semaine, voire deux semaines. Ça te bloque carrément. Tu n'arrives plus à faire tes activités si tu travailles. Tu as du mal à aller travailler. Si tu vas à l'école, tu as des soucis. Bon, je sais tous ces cas de figure-là parce que ça m'est arrivé lorsque j'étais élève, étudiant. J'avais du mal quand j'avais des saignements à aller à l'école. Parce que quand c'est des saignements externes, le sang coule. Mais quand c'est des saignements internes, là, ça se manifeste par des inflammations au niveau des articulations qui sont bloquées.
Et il faut faire beaucoup attention. Hein. Dans votre cas, est-ce que vous avez été diagnostiqué tôt? Puisqu'il y a aussi ce problème, diagnostiquer la personne à temps. Comment c'est fait le diagnostic dans votre cas?
Oui, mon cas, le diagnostic s'est fait un peu tard quand même, parce que ça s'est fait à l'âge de 12 ans, 13 ans, après pratiquement de longues années de difficultés par rapport aux manifestations de la maladie. Tu as une maladie que tu ne connais pas, tu saignes tout le temps, tu as des inflammations. Moi, c'est à la suite d'une blessure assez grave quand même, où je n'arrêtais pas de saigner. On m'a hospitalisé et heureusement pour moi, il y a une personne, c'était un infirmier qui connaissait un peu la maladie, mais qui travaillait pas au niveau de l'hôpital. Quand il s'est approché, il a demandé, on l'a expliqué, il s'est dit, peut-être que ça pourrait être l'hémophilie, est-ce qu'il faudrait pas faire des tests? Parce que même les médecins qui, à cette époque-là, qui étaient au niveau de l'hôpital, n'avaient pas pensé à ça, parce que comme c'est une maladie peu connue, très rare, donc automatiquement, les gens ne pensent pas à ça. On a fait des tests, et c'est suite à cela qu'on a découvert que j'avais une hémophilie de type A sévère.
Et comment s'est fait ce test de dépistage?
C'est une prise de sang qu'on fait et puis il y a des analyses qui sont faites pour pouvoir déterminer si déjà tu as la maladie de 1 et de 2, la typologie, si c'est A ou B, et de quelle gravité il s'agit. Parce qu'il y a hémophilie modérée, mineure et sévère. Moi, j'ai hémophilie A, type sévère.
Alors, vous parliez tout à l'heure de la méconnaissance même à l'époque, même au sein du corps médical, certains médecins ne connaissaient pas la maladie. Est-ce qu'il y a eu du progrès? Est-ce qu'on connaît mieux l'hémophilie actuellement au Sénégal?
On n'est pas encore arrivé à un niveau où on peut dire que maintenant c'est connu, mais on a fait des avancées par rapport à ça. Surtout sur la communication et tout.
Vous êtes aujourd'hui le président de l'Association sénégalaise des hémophiles. L'existence d'une telle organisation, c'est selon vous très important pour rendre justement plus visibles les personnes qui souffrent d'hémophilie dans un pays comme le Sénégal?
Le niveau d'importance, en fait, dépasse même le maximum. On a un volet qui est très important, c'est le volet communication, avant d'arriver au volet social. Et c'est ce volet communication-là qui permet de faire connaître la maladie, qui permet à ceux qui ont la maladie, qui vivent avec et qui ne savent pas c'est quoi, de savoir c'est quoi la maladie et de pouvoir s'orienter là où on peut les traiter et là où, à partir de là, retrouver un semblant de vie correcte. Avoir une association de la sorte est très important, non seulement pour les hémophiles, mais aussi pour la population.
Vous diriez donc que faire connaître la maladie, avoir accès aux médicaments, cela reste des priorités.
Oui, déjà, de un, faire connaître la maladie, et de deux, avoir accès aux médicaments qui sont très difficiles quand même à avoir.
Comment se fait justement la prise en charge actuellement quand une personne est diagnostiquée hémophile?
L'Association sénégalaise des hémophiles est affiliée à la Fédération mondiale de l'hémophilie. Et c'est grâce à cette affiliation-là que nous recevons les médicaments sous forme de dons de la part de la Fédération mondiale de l'hémophilie. On a deux types de traitements. On a ce qu'on appelle la prophylaxie. On a le traitement à la demande. C'est quand tu as uniquement des saignements. Maintenant, il y a une infime partie qui a la possibilité d'avoir ce qu'on appelle la prophylaxie. La prophylaxie, c'est qu'à une période bien déterminée, on leur donne ce qu'on appelle le médicament, les concentrés de facteurs. Maintenant, la disponibilité des médicaments n'est pas effective. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on le reçoit sous forme de don. Donc, ce qui veut dire que si on ne le donne pas, on n'a pas de médicaments. Et les quantités qu'on reçoit aussi ne sont pas des quantités qui peuvent permettre de satisfaire la totalité des hémophiles en termes de profil d'accès.
Des parents, par exemple, qui soupçonnent que leur enfant est hémophile ou leur enfant a des saignements qui ne s'arrêtent pas, quelle est la procédure pour pouvoir savoir si c'est vraiment l'hémophilie et comment cet enfant peut être pris en charge? Quelle est la démarche à suivre?
Lorsqu'on a l'information, ou bien lorsqu'on nous les envoie au niveau de l'association, ce qu'on fait, c'est qu'on les oriente vers le Centre national de transfusion sanguine, CNTS, là où sont traités les hémophiles, pour déterminer si effectivement la personne pour qui on fait le test est hémophile ou pas. Peut-être préciser qu'il y a pas mal de choses qui sont prises en charge par l'association, parce que souvent c'est des familles démunies, bien des familles qui sont dans des zones rurales et qui sont lointaines. Le point majeur, c'est la disponibilité des médicaments au niveau du Sénégal, que le gouvernement puisse acheter et mettre à la disposition des hémophiles, parce que c'est des médicaments quand même qui sont assez coûteux.
DW.
Vous écoutez Capsule Santé sur la DW. On va se rendre à présent dans l'est de la République démocratique du Congo, où les zones de santé de Boutembo et Beni, dans la province du Nord Kivu, connaissent une pénurie de certains types de vaccins pour enfants depuis la fin de l'année 2023. Il s'agit notamment des vaccins pentavalents, antipneumoniques et BCG, souvent administrés aux enfants âgés de 0 à 11 mois. Selon les autorités sanitaires locales, cette situation est due à la violence qui sévit dans cette partie de la RDC. Cela a un impact sur la santé des enfants. Plus de détails avec Zadem Neti Zaidi, notre correspondant dans la région.
Dans l'aire de santé de Makassi, en ville de Boutembo, la vaccination des enfants ne se passe pas bien. L'infirmier chef de l'aire de santé de Makassi, Kambale Wangahikia, confirme l'absence de vaccins dans certaines zones de la province du Nord Kivu. Ses prestataires de soins demandent au gouvernement de la RDC d'intervenir pour sauver la vie des enfants.
Nous manquons de l'outensile, qui est un vaccin qui n'est pas très ancien, il est nouveau. Il prévient les enfants contre la diarrhée. Et nous avons également l'antipneumo qui contribue à la lutte contre la toux chez les enfants, et aussi la méningite, mais également les oreillons. Et nous avons le BCG. Ces enfants restent exposés, d'autant plus que nous disons par exemple, le BCG doit être reçu. Ce système de défense n'est pas très fort. Ça vaut le calendrier vaccinal à l'âge de 6 semaines, 10 semaines, 14 semaines et ainsi de suite. Donc, tous les enfants qui naissent et les autres restent toujours exposés. Une fois disponibles, tous les enfants seront à mesure d'être récupérés.
Cette situation crée des frustrations chez les femmes allaitantes. Kavira Natacha, l'une d'entre elles, explique qu'elle a du mal à accéder à certains types de vaccins depuis la naissance de son enfant. Son fils, né il y a plus de 3 mois, n'a pas encore reçu les vaccins BCG. Face à cette situation, elle craint pour son enfant.
Je bébé de 4 mois, mais il a du mal à trouver, par exemple, BCG et tout qu'on sort comme vaccin. Moi, par exemple, j'ai été à 4 reprises à l'hôpital sans rien trouver. En tout cas, ils m'ont dit, tel jour, j'y arrive, ça succède. Tel jour encore, j'y arrive, ça succède. Je me demande finalement, c'est que ce que nous traversons, c'est pas du tout génial. Moi, j'avais peur que mon enfant puisse tomber malade.
Yvonne, elle, son enfant, a reçu sa première dose de vaccin avec un retard de 2 mois. Elle dit avoir effectué plusieurs tours dans des structures sanitaires pour la vaccination de son enfant. Ce n'est que la semaine dernière donc que son fils a reçu son premier type de vaccin. Elle nous parle de la peur qui l'animait avant que l'enfant ne soit vacciné.
En fait, je me sentais très mal parce que ce vaccin est très important pour l'enfant. Car s'il n'est pas vacciné, il s'expose à des handicaps et à des maladies lorsqu'il grandira. Les autorités sanitaires devraient nous fournir les vaccins, sinon cela pourrait causer des problèmes aux enfants plus tard.
Kasoki Defrose, infirmière dans les cliniques universitaires de Beni, déclare que la non-vaccination des enfants a des conséquences sur la santé physique des nouveau-nés. Elle évoque les risques de poliomyélite, de tuberculose et d'autres malformations corporelles.
Si l'enfant n'est pas vacciné contre la polio, il risque de s'affaiblir et ses muscles ne seront pas renforcés. L'enfant reçoit le BCG à la naissance. Après 1 mois et demi, il reçoit le VPO 1 en 3 doses, 2 dans une jambe et 1 dans l'autre. Et pour la seconde fois, il reçoit 2 doses de VPO 2, une dose à 6 mois et l'autre à 9 mois.
6 mois, il y a 9 mois.
Selon les statistiques de la zone de santé de Beni, plus de 1000 enfants attendent d'être vaccinés dans plusieurs villes de la région de Beni et Butembo. Zanem Netizaidi pour la Deutsche Welle.
C'est déjà la fin de ce magazine. Rendez-vous sur nos différentes plateformes pour écouter le podcast de ce numéro et de tous les autres. Au revoir et à la semaine prochaine.